cours de philosophie éthique de Père Marie-Dominique Philippe, le 2 décembre 1999, à Saint-Gédard.
Père, je ne comprends pas très bien l'exigence communautaire que réclame l'adoration à cause de notre corps. Cet aspect communautaire est, ce me semble, en vue de la manifestation de ma dépendance à l'égard de Dieu. Pour moi, je vois que l'adoration est personnelle avant tout. C'est sûr. Ce qui est communautaire demeure personnel. Ne mettez pas dialectiquement une opposition. Pour être vraiment communautaire, il faut que ce soit personnel. Autrement, c'est un troupeau de moutons. C'est la différence entre le troupeau et la communauté. Pour moi, je crois que l'adoration est personnelle avant tout. Tout à fait d'accord. Mon âme, elle est premièrement dans mon âme. Et donc, ce qui touche mon âme est personnel avant tout. Peut-on dire, mais l'âme informe le corps. Et en tant que l'âme informe le corps, la communauté se fonde dans cette information du corps. Autrement, nous serions comme des anges. Il n'y a pas de communauté pour les anges. Ils sont bien heureux, hein. Pas de communauté, pas de noviciat pour les anges. Ils sont bien heureux. Pas de permettre pour les anges. C'est typiquement humain et communautaire. À cause du corps. C'est le corps qui fait que nous soyons une communauté humaine. Et c'est à partir du corps que la procréation se fait et que la première faute peut avoir cette répercussion sur la communauté par le corps. Notre âme est abîmée par notre corps. Notre âme est infectée du péché originel par notre corps et à cause de notre corps. Enfin, autrement, vous voyez, alors Platon ne peut absolument pas comprendre le péché originel. Et au fond, tous ceux qui s'opposent au péché originel sont au fond platoniciens. Ils ne comprennent pas l'union de l'âme et du corps. Ça, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Hein. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Que notre âme s'unisse substantiellement à notre corps. Substantiellement. Donc, tout amour humain est lié au corps, personnellement. Et ensuite, communautairement. Alors, je continue. Peut-on dire qu'il y a une nécessité à ce que l'adoration soit communautaire, ou bien cette nécessité est seulement au niveau de l'adoration chrétienne ? Merci pour votre précision, c'est bien. Alors, je relis. Peut-on dire qu'il y a une nécessité à ce que l'adoration soit communautaire ? Oui, elle est nécessairement communautaire. Ce n'est pas parce qu'elle est chrétienne. Mon âme est unie au corps, pas à cause de la grâce chrétienne. La grâce chrétienne regarde une âme unie essentiellement au corps. Le péché n'a pas détruit le lien de l'âme unie au corps. Il a détruit l'ordre à la finalité par l'opération. C'est là où il a déséquilibré quelque chose, mais pas quand il s'agit de l'union substantielle de l'âme et du corps. Mais il a fait porter au corps un déséquilibre terrible. Déséquilibre, il touche le corps. Le déséquilibre que nous voyons toujours, que nous essayons. Et voyez, c'est là où on voit très bien que la psychologie ne peut pas toucher ça. C'est plus la psychologie, alors c'est autre chose. La connaissance du lien de notre âme et notre corps échappe à la psychologie. Comme telle, si. Alors, disons, la philosophie du vivant, la philosophie du vivant regarde le lien de l'âme et du corps, mais pas la psychologie. La psychologie regarde le point de vue du conditionnement humain. Or, le conditionnement humain est commandé par l'union de l'âme et du corps. C'est pour ça que je dis que le corps est un conditionnement substantiel, parce qu'il fonde tous les conditionnements. Alors, le point de vue chrétien a donné un sens nouveau à cela. Du côté de la manifestation, ça a l'air d'accord. Du côté de la manifestation. Mais l'adoration implique que notre corps coopère avec notre âme pour adorer. D'où des gestes liturgiques. La liturgie, c'est au niveau du corps. C'est l'aspect communautaire. Alors, que nous nous fabriquions à nous-mêmes une petite liturgie personnelle, un petit tapis, un lieu où on adore, un lieu... Où... Très bien. Je crois que c'est très très bien d'avoir une liturgie personnelle et communautaire. Voyez, mais cette liturgie n'est pas complète. La liturgie demande la communauté. Et c'est une petite liturgie communautaire, personnelle. C'est très bien. Vous en parlez à votre père spirituel, très bien. Le père maître ne peut rien dire. Il ne peut pas demander la taille du petit habit. Ou la couleur du petit habit. Non, 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 non. C'est personnel. Vous avez le droit de prendre un tapis qui vous fait un mal énorme au genou. Le père me dira, attention, attention, ne soyez pas trop stoïcien. Parce que, autrement, un petit habit plutôt pour adoucir la chute verticale vers le bois ou vers la pierre. Mais l'union de l'âme et du corps est substantielle. L'adoration est premièrement intime, personnelle. C'est l'âme qui reconnaît qu'elle est créée directement par Dieu. Ça, c'est vrai. Et donc l'adoration est essentiellement personnelle. Essentiellement personnelle. Elle est premièrement personnelle. Mais elle est aussi essentiellement communautaire, parce que le corps est uni essentiellement à mon âme. Mais voyez, mon corps n'a pas été créé directement par Dieu. Or, l'acte d'adoration reconnaît l'aspect de la création immédiate. Je n'adore pas mes parents. Hein ? Non, non, pas du tout. Bien que mon corps soit formé par eux. Et que mon corps est uni essentiellement à mon âme. Mais c'est en tant que le corps est uni essentiellement à l'âme que le corps est uni à l'adoration. Mais ce n'est pas ce que vous ajoutez à votre corps. Qu'est-ce que vous ajoutez à votre corps ? Votre habit, votre chapeau. Ça, c'est pas essentiel à l'adoration. D'avoir tous le même habit, là. C'est très bien, ça, c'est très bien. Ça, c'est chrétien. Mais c'est aussi religieux. Les communautés religieuses qui adorent. Et alors, il faut discerner ce qui est essentiel, ce qui est ensuite liturgique en fonction des fêtes, en fonction des différents aspects particuliers. Et le rouge, le vert, le violet, Oui, c'est pas... Ça ne fait pas partie de votre petite adoration personnelle. Non. Moi, je crois. Parce que vous avez peut-être des souliers violets dans l'adoration personnelle pour le carême. C'est possible. Je n'ai pas fait de visite au carême pour voir si vous aviez vos souliers de carême. Non, c'est secondaire. Mais communautairement, ça peut se comprendre. Vous voyez ? On a des tuniques particulières pour le carême. 10 secondes. Bon. Comprenons alors, à partir de cette adoration qui va impliquer l'individu et la personne, ça c'est sûr, que c'est quand même toujours secondaire, c'est pas premier. Ce qui est l'essentiel, c'est d'avoir la même intention quand on adore communautairement. Et cette unité ne se fait pas par les gestes extérieurs. Les gestes extérieurs perdent leur signification quand intérieurement, l'intention de l'adoration n'est plus en acte. Quelqu'un que je connais, qui a vécu très longtemps dans l'Inde, et qui a cherché de comprendre toute la signification de tous les gestes. De la liturgie, des différentes religions qu'il pouvait y avoir dans l'Inde. Et on ne savait plus, c'est ce qu'elle m'a dit. Or, c'est quelqu'un de très sérieux, une raison qu'elle m'ait trompée. Elle avait interrogé pour comprendre la signification de tous les gestes. Elle m'a dit, on ne le sait plus, on répète. Alors elle me dit, ça c'est la fin d'un aspect religieux. Quand de fait on répète matériellement. Et on répète matériellement, on entre dans l'église, on fait la génuflexion. Pourquoi ? Ah je sais pas, je sais pas. C'est un lieu saint. Pourquoi vous ne faites plus de génuflexion et que vous penchez le plus possible en signe de vénération. Comment le signe de la génuflexion est plus chrétien que le signe de la révérence. La révérence vous trouvez ça dans toutes les religions. La génuflexion, non, c'est chrétien, typiquement chrétien. Alors pourquoi ? Oui, ça c'est intéressant au point de vue philosophique et au point de vue religieux de comprendre le fondement et la signification de tous ces gestes. Pourquoi on se rase la tête ? Qu'est-ce que ça signifie ? Signification, vous voyez. Et comment ça peut se dégrader dans des sectes ? Oui, alors il n'y a plus que le signe extérieur. Ça, c'est la dégradation du point de vue religieux. On ne sait plus la signification profonde, alors ça se dégrade, et on le garde uniquement comme signe d'unité de la communauté. Alors là, ce serait très intéressant, parce que là, on verrait tout de suite la différence entre des communautés religieuses et des sectes. Et on pourrait répondre du tac au tac. Et on poserait la question à ceux qui disent que c'est une secte. Pourquoi c'est une secte ? Comment c'est une secte ? Alors on verrait les signes et la signification propre des signes qui sont dans une communauté religieuse chrétienne et les signes qui sont dans les sectes. Ça serait très intéressant à creuser. Et aujourd'hui, ce serait peut-être nécessaire que le père liturgiste pousse ça jusqu'au bout, en voyant les signes extérieurs qui sont propres à la communauté chrétienne, propres à la communauté chrétienne religieuse. Alors qu'il pourrait être la manière de se défendre. Dans aucune secte, vous verrez ces gestes. Alors vous les voyez chez nous, et chez nous, ils prennent telle signification. Ça, je crois que c'est très intéressant de voir la dégradation des gestes religieux, quand l'intériorité de l'âme n'y est plus. Ce qui montre bien que l'adoration est un geste personnel, et avant tout personnel. L'adoration communautaire, personnel, fait l'unité de la communauté au niveau intention propre, personnelle, et la manifestation de cette intention qui, elle, alors déborde par l'âme sur tout le corps. L'adoration, parce qu'elle est personnelle, parce qu'elle regarde d'abord l'âme, et qui fait comprendre comment l'âme est créée par Dieu et qu'on remercie Dieu d'avoir créé notre âme, l'adoration conduit à la contemplation. Alors voyez, là, on voit tout de suite, il n'y a pas de contemplation communautaire. Non. La contemplation par elle-même est individuelle et personnelle. Ce n'est pas la contemplation qui fonde la communauté, c'est l'adoration. Mais la contemplation, l'adoration étant personnelle, elle conduit à la contemplation. Alors, il faut bien voir ça. Quel est le métaxu qui fait que mon adoration, si elle est fidèle, acte religieux, va conduire à une certaine contemplation. Pourquoi l'adoration conduit à une contemplation? Là aussi, c'est la différence avec un point de vue de secte. La secte met avant tout la communauté, et non pas la personne. Tandis qu'au contraire, l'adoration maintient le primat de la personne sur la communauté. Et ça, c'est très très important pour se défendre contre la confusion qu'on fait entre les communautés religieuses et les sectes. Est-ce que le primat de la vie personnelle et de l'adoration qui conduit à la contemplation est suffisamment manifesté pour que de l'extérieur même, on puisse dire « Ah non, c'est pas une secte. » Parce que je crois que c'est la très grande différence au point de vue communautaire. La communauté au point de vue secte passe toujours en premier lieu. C'est pour ça que c'est à la vie et à la mort pour la secte. Tandis que jamais par rapport à une communauté religieuse. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas tel ou tel petit détail pratique au point de vue adoration communautaire qu'on vous mettra à la porte. Jamais. C'est quand ça touche le point de vue essentiel de l'intention de vie qui passe à travers l'adoration et qui est atteint par l'adoration. Alors, l'adoration étant un acte personnel, volontaire, libre, conduit à la contemplation. Ne faites pas de l'adoration une contemplation. Regardez bien ce qu'est l'adoration pour bien comprendre cela. C'est cette découverte que le Dieu créateur qui est père de mon âme, parce qu'il est père de mon âme, je dois être attentif à tout ce qui est exigé par l'adoration communautaire et qui permet l'adoration qui est exigé d'être de la manière située, non. Ce propre de l'adoration qui détermine telle activité, qui la détermine profondément. C'est mon âme qui détermine ça. C'est mon âme qui adore. Puisque l'adoration touche et remercie Dieu Père d'avoir créé mon âme, de m'avoir créé, puisque en adorant, je comprends que Dieu m'a créé par un acte d'amour libre, gratuite. Je comprends qu'il y a entre Dieu et moi une certaine similitude. Entre Dieu et mon âme, une certaine similitude. Il y a une qualité que je reconnais dans mon âme qui adore, mon âme qui adore, elle est incorruptible. Elle ne peut pas connaître la corruption. Elle peut connaître seulement, par l'orgueil, être isolée des autres et séparée des autres. Alors c'est moi-même qui fais ça. Je peux moi-même me séparer des autres et considérer que je suis mieux seule parce que je dépasse les autres par orgueil. Je suis seule. Seule par rapport à tous les autres qui sont des imbéciles et qui ne comprennent pas. Alors, ça se dit plus ou moins, ça se dit, voyez. Ils pourraient faire comme moi. Ils pourraient être aussi des contemplatifs. Mais ils le sont en main parce que c'est trop difficile pour eux. Leur intelligence n'est pas assez développée. Leur cœur, surtout, n'est pas assez développé. Ils n'aiment pas assez se considérer comme la partie d'un tout. Que Dieu les attire. Que Dieu s'occupe d'eux. Alors, ils ont de la peine à comprendre cette sagesse qui s'acquiert et qui contemple. Comment acquérir la sagesse? On l'acquiert pour adorer. Et une fois qu'on a adoré, on sait ce qu'est cette sagesse. Elle implique l'adoration. Mais cette sagesse qui implique l'adoration, elle aussi implique l'attraction du Père sur mon âme. Il est la bonté essentielle de mon âme. Et je suis capable d'y comprendre. Et je désire connaître et contempler le plus que je puis mon Créateur. Contempler et désirer le plus facilement possible, le plus profondément possible, celui qui est mon Créateur. Et par la création, j'ai un contact direct avec Dieu Créateur, et je comprends que cet acte créateur de Dieu est un acte de sagesse, un acte libre, un acte qui est pour moi, dans une gratuité totale. Et par le fait même, je ne me contente pas seulement de le remercier, je désire connaître, dans la mesure du possible, celui qui est à l'origine. Celui qui est à l'origine de mon être, de tout moi-même. Je désire me rapprocher de lui en le connaissant et en le contemplant. Parce que je sais que connaître Dieu ne peut se faire que par la contemplation. Il n'y a pas d'autre manière de connaître Dieu, puisque par l'analyse se termine toujours dans la négation quand il s'agit de Dieu. Dès que j'analyse, je suis obligé de dire « ça ne va pas en Dieu, il ne peut pas y avoir de division en Dieu ». Donc, je ne peux que le contempler. Et c'est par là que tout de suite, ma connaissance à l'égard de Dieu va tendre vers la contemplation. Habitus contemplativus, la sagesse. Or, j'ai acquis la sagesse en adorant. En adorant, j'ai reconnu que je devais aimer. Je devais comprendre que mon bien, c'est de contempler Dieu, que c'est le bien le plus connaturel à mon esprit et à mon cœur spirituel. Le contempler, c'est me mettre le plus proche de lui et c'est le laisser m'attirer. C'est le laisser attirer mon intelligence dans une sorte d'acte extatique provient de l'amour. Et qu'il y a comme un appel urgent pour moi de le contempler le plus que je peux. Vous voyez, ce n'est pas un ordre extérieur, un seul Dieu tu adoreras. Là, il y a un ordre d'adorer Dieu. Contempler Dieu, il n'y a pas d'ordre. Mais c'est une exigence intérieure d'aller le plus loin possible dans ma connaissance que j'ai de Dieu. Une connaissance très très libre, une connaissance qui va très loin, puisque c'est Dieu lui-même qui m'appelle. C'est Dieu lui-même qui veut me faire vivre déjà de ce qu'il vit et de le vivre le mieux possible. Et donc, ça c'est une exigence du bonheur que la contemplation de Dieu me donne. Et cette contemplation de Dieu me donne ce bonheur autant que je le puis, mais c'est d'une certaine manière infini. Plus je contemplerai Dieu, plus je serai capable de le contempler, plus j'ai soif de le contempler. Et donc, c'est une soif infinie qui vient de l'intérieur et qui n'est pas du tout commandée par l'extérieur. Je ne peux pas le commander. Mais ce que je peux, c'est tout faire pour que cette soif ne demeure pas toujours une soif, mais qu'il y ait un certain apaisement, certaines connaturalités qui va s'établir au plus intime de moi-même, parce que je constaterai que Dieu comme chef, c'est vraiment celui que je contemple, que je dois contempler et que je dois aimer. Alors, il faut se poser la question, que représente cette contemplation ? Je ne peux le faire . Qu'est-ce qui caractérise cet acte ? L'au-delà de l'analyse. Vous voyez, l'analyse conduit à l'induction, la découverte d'un principe. La contemplation, ce n'est pas la contemplation d'un principe. C'est la contemplation d'un être existant, tel qu'il est, dans sa manière propre d'être, dans sa manière propre de vivre. Je contemple la simplicité de Dieu, je contemple la perfection de Dieu, je contemple la bonté de Dieu, je contemple l'infini de Dieu, tous les attributs, je les contemple. Alors, la contemplation implique l'attraction d'amour qui se réalise par le sentiment. Et ce fait de contempler celui qui n'est que bonté, n'est que perfection, n'est qu'acte, en qui tout s'unit et qui est d'une unité parfaite, le fait de contempler cet être implique une certaine extase. Je sors de moi-même intérieurement pour être tout entier sous l'attraction de celui qui est mon bien. Et c'est dans cette attraction que le Père exerce sur moi, qui est naturelle, hein, que je contemple. Autrement, il n'y a pas de contemplation. Tant que je reste dans l'analyse, il n'y a pas de contemplation. Tant que je reste dans l'induction, il n'y a pas de contemplation. Il faut dépasser cela et avoir suffisamment de dépassement de l'analyse. Quelqu'un qui est dans la raison constante. Et c'est en comprenant cela que cette attraction du Père se fait plus profonde en moi. Et que de plus en plus naturellement, mon intelligence prend cette manière de contempler qui est une manière extatique. Et c'est cela qui... Et il y a pour l'intelligence humaine un repos. Et c'est ce que profondément les néoplatoniciens, comme Plotin, soulignent. C'est le repos et le silence. Je suis introduit dans le repos de Dieu et dans le silence de Dieu. L'au-delà de toute détermination. Et on se met au rythme profond de Dieu. Je n'y entre pas pleinement, je suis suspendu. L'attraction de la causalité finale. Pas de contemplation sans attraction de la causalité finale. Pas de contemplation humaine sans cette attraction. Le contenu intellectuel de la contemplation philosophique est faible. Il est à partir de la négation où je puis comprendre cet appel intellectuel. Mais il est second. Il est à travers l'attraction. Et c'est dans l'attraction que je précise les diverses qualités de l'être premier, de Dieu, comme Père. Alors voyez, c'est quand même très important de voir que l'adoration m'ouvre à la contemplation. Que la contemplation me permet de comprendre que la contemplation naturelle, philosophique, c'est mon bien. C'est mon bien. J'en ai besoin. Et tant que je ne contemple pas du tout, eh bien mon intelligence demeure toujours un peu dans l'insécurité, dans l'isolement, ce n'est pas le silence, dans l'insatisfaction. La contemplation philosophique, si faible qu'elle soit, comme dit Aristote, elle est par moments, parce qu'elle est dans cette attraction. Et ça ne me... Je ne peux pas, je suis passif là. Il y a une passivité très forte dans cette contemplation. Je laisse Dieu m'attirer. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine connaturalité qui va se créer par l'habitus de sagesse acquis, qui fait que de plus en plus, je me mets dans cette situation pour laisser la cause première